Ce qu'on pourrait dire pour commencer, c'est que longtemps périphérique, hein, au point d'être considéré, pour reprendre l'expression de Stéphane Beau dans La France invisible, comme un angle mort de la sociologie française, ces espaces périurbains, ou certains types d'espaces périurbains, plus que ceux que dont je vais vous parler aujourd'hui, ont fait l'objet d'une attention croissante tout au long des années 2000, puis ont connu une véritable consécration médiatique, notamment à l'occasion du scrutin présidentiel de 2012. Quand on connaît la tendance à ce que des sociologues Sylvie Tissot et puis Franck Poupeau ont défini comme la tendance à la spatialisation des problèmes sociaux, on s'aperçoit que c'est pas totalement un hasard si cette éruption de la catégorie périurbain coïncide avec un certain retour des classes sociales dans la sociologie française et plus largement dans les sciences sociales françaises, parce que l'espace périurbain a été progressivement construit sous l'effet de plusieurs thèses sur lesquelles je reviendrai rapidement, comme l'espace résidentiel, de couches moyennes de petits blancs, avec plein de guillemets sur petits blancs, qui serait animé par la quête d'un entre-soi protecteur, à bonne distance, géographique comme sociale, des quartiers populaires de grands ensembles, d'un côté, comme des espaces de centre-ville appropriés par différentes fractions des classes supérieures, d'autre part. Alors, justement, dans cette perspective, hein, qui met l'accent sur ce que certains ont appelé, autour de la revue Esprit notamment, sous la plume de Donzelot et Jaillet, la sécession sociale et urbaine, la situation des strates inférieures des classes moyennes, qui seraient déstabilisées ou à la dérive, selon l'expression de Louis Chauvel, constituerait de la sorte la nouvelle question sociale et les scores électoraux élevés de l'extrême droite dans ces mondes périurbains exprimeraient les difficultés qui seraient rencontrées par ces groupes sociaux privés du droit à la ville, pour reprendre l'expression de Lefebvre, et qui seraient fragilisées par les effets de la mondialisation libérale. Alors on retrouve très notamment, sans revenir en détail parce que c'est pas l'objet ici, mais sans revenir sur la genèse de cette thèse, on retrouve ici en partie les effets du travail du géographe qui s'appelle Christophe Guilly, dont le nom vous a probablement pas échappé tant il a été médiatisé. Je reviens en quelques mots quand même sur la genèse de cette thèse. Christophe Guilly s'est d'abord fait connaître en publiant en 2004 un atlas de nouvelles fractures sociales sous-titré « Les classes moyennes oubliées et précarisées ». Atlas qui était, moi j'ai trouvé très intéressant, notamment parce que j'étais en début de thèse et que je travaillais sur des problématiques voisines ou connexes, mais aussi parce que parmi les premiers, il soulignait l'importance de ne pas étudier la division sociale de l'espace, autrement dit l'inégale répartition des groupes sociaux, à l'échelle des seuls espaces urbains agglomérés, mais de l'élargir à l'échelle des aires urbaines, pointant ainsi notamment le mécanisme de relégation progressive de certaines fractions des couches populaires, ouvrières notamment, dans le périurbain lointain. Et puis on pourrait dire à partir de là, je suis nettement moins fan, le mot est faible, des travaux de Christophe Guilly. Dans son ouvrage Fracture française, puis la France périphérique, hein, il a opéré un glissement qui est aussi un glissement très politique, mobilise la notion d'insécurité culturelle qui est à peine une prénotion sociologique, reprenant cette notion à Laurent Bouvet, un autre politiste. Alors pour le dire très vite quand même, parce que c'est important pour comprendre comment se structure le champ de l'analyse électorale et notamment de sa réception politico-médiatique, à l'origine de ça, il y a un rapport qui est le rapport du think tank Terra Nova, qui est le principal think tank du Parti Socialiste, qui a produit en 2011 un rapport qui s'appelle « Quelle majorité électorale présidentielle pour 2012 ?». En quelques mots, ce rapport, il dit, avec à la fois un cynisme et un mépris de classe assez inquiétant, il part du principe supposé que les classes populaires soit ne votent plus, soit votent pour l'extrême droite, et donc pour gagner, il faut développer une stratégie principale laissant de côté les classes populaires, et donc tout miser, entre guillemets, sur certains groupes sociaux. Alors là aussi, ça renvoie à une série de prénotions, hein, les femmes, les étrangers, enfin les femmes, les immigrés, les urbains, les très diplômés, etc. Et face à cette prise de position dans le champ interne au Parti Socialiste, s'est développé un manifeste qui s'appelle « Plaidoyer pour une gauche populaire », dont est signataire Christophe Guilly, mais aussi d'autres universitaires dont les travaux sont pour contre tout à fait sérieux, qui dit en gros, et dont font partie un certain nombre d'élus de Seine-et-Marne d'ailleurs, un département périurbain de l'Île-de-France où les montées du vote FN sont précoces, qui répond pied à pied à Terra Nova en disant non, la gauche, pour toute une série de raisons historiques et politiques, ne peut pas lâcher les classes populaires et donc doit mettre le paquet sur les inégalités qui ne seraient pas des inégalités qui renverraient à ce qu'on appelle le sociétal, avec plein de guillemets, mais vers le social. Cette opposition entre ce qui relèverait du sociétal, par exemple mettre en avant les luttes pour l'environnement, les minorités, les homosexuels, le droit de vote pour le mariage pour tous, ça c'est ce qui relèverait du sociétal selon eux. Et il faudrait, selon ce groupe qui plaide pour une gauche populaire, mettre l'accent sur ce qu'il appelle le social, autrement dit une vision plus classique, les inégalités telles qu'elles seront produites par exemple dans la sphère de production et le monde du travail. Alors ça, séparer le sociétal du social, on s'aperçoit assez vite en sciences sociales que c'est une erreur intellectuelle énorme et c'est un piège intellectuel, idéologique et très important. Alors je suis obligé d'aller très vite, il faudrait mettre de la nuance dans tout ce que je dis ici, mais on s'aperçoit en gros, j'ai pas repris la diapo, mais c'est le Figaro que je cite rarement, mais là que je trouvais très intéressant, qui titrait « Petit blanc contre bobo, la nouvelle lutte des classes ». Ça, c'est un des effets de une décennie, on va dire, d'impression, d'analyse post-électorale opposant et du coup désociologisant l'analyse en passant par le prisme de la spatialisation des problèmes sociaux. Des bobos, qui ne sont pas non plus une catégorie sociologique, évidemment, aux petits blancs, qui le sont tout autant moins. Voilà, ça contribue à désociologiser, à essentialiser finalement l'analyse. Et cette essentialisation, c'est une essentialisation géographique. Il y aurait les urbains contre les périurbains. Et ce serait devenu le principal clivage de structuration à la fois des dispositions politiques, mais aussi de leurs expressions électorale. Alors, dans le même temps, d'autres géographes ont insisté, notamment depuis le scrutin présidentiel 2002, sur ces spécificités supposées des choix électoraux des périurbains, en invoquant par exemple des gradients d'urbanité, c'est le cas du géographe Jacques Lévy. Pour lui, le fait de résider dans tel ou tel type d'espace, hein, urbain ou périurbain, résulterait pour chaque habitant d'un système de valeurs qui s'exprimerait également dans les votes. Alors, ce système d'analyse, il pose toute une série de problèmes qu'on a critiqué dans un article avec mon collègue et ami Fabrice Ripoll. Bref, que ce soit un registre de ces couches moyennes populaires sont parties parce qu'elles n'avaient pas plus le choix, on va dire, pour le dire très vite, premier registre Paul-Christophe Guilly, ou alors qu'elles y aillent parce qu'elles fuiraient l'urbanité, l'altérité, et sans le dire, la diversité, et notamment les étrangers, les immigrés qui y sont, le produit de ça est convergent. Ça tend à essentialiser l'analyse, la désociologiser. Pour Christophe Guilly, elle est sociologisée, mais sur des bases problématiques. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné envie, je le reconstruis en partie a posteriori hein, ici, de continuer à plaider pour l'analyse de l'encastrement social, des préférences électorales. Comme le disaient des politistes, il y a quelques années, des politistes américains, autour de la question du vote de classe, ils ont dit « le vote de classe n'est pas mort, il a été enterré vivant ». Bref, il faudrait arriver à produire, même si les contours des classes sociales sont évidemment difficiles à cerner, la notion renvoie à toute une série de présupposés théoriques, mais bref, il faut continuer à plaider pour comprendre les choses, et les comprendre de manière fine, et je vais essayer de vous le montrer localisé, à sociologiser l'analyse. Justement, la commune de Mathieu, alors ce que je vous aparté pour vous dire que ce que je dis là, c'est extrait d'un article de l'avant-dernier numéro qui est paru de la revue Actes de la recherche en sciences sociales, qui a été coordonné par Sylvie Tissot, qui l'a introduit avec son introduction qui s'appelle « Entre soi et les autres », et qui questionne justement les espaces de l'entre-soi. Donc l'article que je vous présente là, vous pouvez le retrouver dans cette revue. Le lire, ce serait intéressant, si ça vous intéresse de le lire en miroir de celui qu'a écrit une collègue maître de conf à l'Université de Rouen, qui est en sociaux, avec qui je travaille fréquemment, et avec qui on avait d'ailleurs publié une tribune dans Libération autour de la sortie du bouquin de Guilly pour le critiquer, qui a travaillé sur des classes, des communes périurbaines, de classes populaires blanches, parce que c'est un type de contexte périurbain qui permet aussi de réintroduire de la diversité. Et puis, alors, tous les articles sont intéressants. Un que moi, j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est celui qui s'appelle « La parité sous contrôle, égalité des sexes et clôture du champ politique », qui revient sur les ressorts de la domination masculine caractérisée dans le champ politique, qui est caractérisé comme un espace de l'entre-soi important. Alors, la commune de Mathieu, que je vous présente aujourd'hui et qui est étudiée dans l'article que je vous présente, au moment du scrutin municipal de 2008, et pas lors du dernier de 2014, hein, ça c'est important de le préciser, elle constitue précisément un exemple des communes périurbaines qui, au fil du temps, ont accueilli une population plus aisée. Donc on est loin de ces périurbains de petits blancs, même si je conteste l'expression entre guillemets, hein, au contraire. D'abord, ces communes, elles témoignent de la diversité des configurations socio-électorales périurbaines, et ces communes, elles sont plutôt sous-enquêtées en France, à l'exception des travaux d'Éric Charme, qui a également travaillé sur ce qu'il appelle les communes clubisées, à partir de l'importation ou de la remobilisation de la théorie des biens clubs, hein, qui est une théorie économique orthodoxe qui pose bien des problèmes, mais sur lequel je ne m'attacherai pas ici. Et si ces communes périurbaines des classes supérieures et de certaines fractions des classes moyennes supérieures ont connu une évolution qui peut évoquer certains quartiers centraux intra-urbains qui sont appropriés par des groupes dominants ou telle de leurs fractions, on pense notamment aux quartiers gentrifiés ici, les dynamiques électorales n'y sont pas les mêmes. De la même manière, elles diffèrent de ce qui s'observe dans des zones pavillonnaires ou des espaces périurbains plus lointains qui sont essentiellement occupés par des classes populaires, et des classes populaires blanches en particulier, telles qu'elles sont décrites par Violaine Girard. Et les mobilisations électorales, à Mathieu, elles ne sont que partiellement comparables au processus de renouvellement des élus municipaux tels qu'ils ont été analysés dans les mondes ruraux par toute une série de travaux de l'histoire et de la sociologie politique. Cela dit, comme dans les communes rurales de taille comparable, Mathieu fait autour de 2000 habitants, la compétition pour la conquête du pouvoir municipal y reste profondément encastrée dans le reste des luttes sociales locales, en l'occurrence ici des luttes de classement et de distinction entre différentes fractions des classes moyennes et supérieures. Donc là, je fais référence notamment au travail de Daniel Gaxi et de Patrick Lehung, qui est ancien, qui date de 84, qui s'appelle « Enjeux municipaux », qui montre bien le profond encastrement des luttes dans le champ politique avec le reste des luttes sociales dans l'espace local. Alors, cette commune de Mathieu, elle met en évidence un profil de type périurbaine, qui sont celles où le foncier est le plus cher et où entre les camps avec une forte accessibilité et les plages du littoral se trouvent concentrées progressivement les classes moyennes, enfin certaines fractions des classes moyennes supérieures et supérieures, qui sont des fractions différentes, notamment en termes d'âge et de structure des ménages, que celles qui vivent dans ce qui serait un peu l'équivalent local des beaux quartiers des Pinsons et Pinsons-Charlot, toute proportion gardée pour les beaux quartiers, tout est dans le toute proportion gardée, qui sont localisés dans le centre-ouest de Caen. Alors, justement, si on regarde la commune vue par deux habitants, hein, je vous présenterai tout à l'heure les choses, et notamment vue par un élu sortant, il notait qu'il y avait une analyse qui avait été faite par l'Express sur les fortunes, donc c'est un extrait d'entretien avec un élu sortant. Enfin non, pas sur les fortunes, sur les revenus imposables, qui nous classe en 83e position à l'échelle nationale et première au niveau régional sur la moyenne du revenu imposable. Les mathieusiens, ils demandent quoi aujourd'hui? Ils demandent un minimum de services, ils sont très exigeants, ils demandent quoi? Ils demandent leur cadre de vie. Bon, il y en a un qui m'a dit, moi ce qui serait bien, c'est que la tonte des espaces verts soit faite le vendredi pour que le samedi et le dimanche, nos invités, soient émerveillés par la commune. Et ça, vous ne l'empêcherez pas. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en termes de demande électorale, et c'est justement ça qui va m'intéresser dans le champ municipal, ça donne une idée intéressante de ça. Alors, en termes de structuration de mon propos, si je reprends les deux grandes parties, je vais m'attacher dans un premier temps à caractériser les groupes localement en présence, en insistant notamment sur leur rapport à l'urbanisation et au peuplement local, ce qui permet d'établir leurs demandes électorales. Pour cela, le propos va s'appuyer sur une enquête par questionnaire dite « sortie des urnes » qui a été réalisée au moment de la présidentielle de 2007 et pas de l'élection municipale, on pourra en discuter tout à l'heure. Questionnaire qui revient sur les modalités d'inscription dans l'espace communal, les votes et positionnements politiques, ainsi évidemment que sur les propriétés sociales de ses habitants. Et puis dans un second moment, ce qui sera ma deuxième partie, c'est la production des offres électorales municipales qui sera envisagée, en mettant notamment l'accent, par rapport au fil conducteur du numéro thématique, sur la manière dont l'urbanisation a été construite comme enjeu central dans la production des offres des trois listes en compétition. De sorte que, entre désir affiché de mixité sociale et intergénérationnelle et volonté de préservation du cadre résidentiel et rural, encore une fois entre guillemets, deux expressions qui sont revenues fréquemment dans les discours des enquêtés, l'article tente de montrer qu'en filigrane des enjeux qui sont liés à l'urbanisation, c'est bien la question de l'entre-soi qui est au cœur et de sa préservation évidemment, qui est au cœur des mobilisations électorales municipales. Alors d'abord, donc première partie, des demandes électorales antagonistes entre soi versus mixité sociale et intergénérationnelle. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la question de l'urbanisation, elle est particulièrement sensible dans celle des communes périurbaines qui sont dominées par les classes moyennes et supérieures. Bien qu'elle ait été toujours contenue autour de 3% par an, ce qui est un rythme faible pour une commune localisée comme celle de Mathieu, l'urbanisation à Mathieu a ralenti autour des années 1990. Alors, par plusieurs facteurs. D'abord, cette décennie a été marquée au niveau national par un contexte macroéconomique défavorable, mais il y a aussi un facteur local qui est également intervenu et qui nous intéresse particulièrement, c'est la création d'une association de défense des intérêts locaux de Mathieu, la formule est le nom de l'association, hein, à la suite d'une contestation du projet de plan d'occupation du sol, l'ancêtre des PLU de l'époque, devant le tribunal administratif. Et du coup, pendant que l'affaire était portée devant le tribunal administratif, l'absence de construction neuve sur cette période se lie aussi bien dans la structure démographique de la commune, hein, la part de la classe d'âge des enfants de moins de 10 ans s'écroule après le recensement de 90, que dans la démographie de l'école communale, hein, dont les classes ouvrent et ferment au fur et à mesure que les lotissements sortent de terre. Alors, j'ai passé un petit peu sur le fait qu'on est ici dans un terrain sociologiquement très typé. Si on regarde les données telles qu'elles des groupes socioprofessionnels, autrement dit de la nomenclature la plus grossière pour saisir les mondes sociaux ici, on s'aperçoit qu'on regarde la structure en 2009 et qu'on fait le total du bloc que constitue la CS3, cadre et profession intellectuelle supérieure, et le bloc profession intermédiaire, on s'aperçoit qu'il compose globalement les deux tiers de la structure sociale locale des actifs. Et on s'aperçoit aussi qu'entre 1999 et 2009, cette tendance, déjà très marquée hein, dans la société française, il n'y a pas deux tiers de cadres et de professions intellectuelles supérieures, ni de professions intermédiaires, on s'aperçoit que cette tendance s'est accentuée en 2009. Alors, je vais y revenir après, il faudrait, pour analyser ces fractions ou ces sous-groupes, il faudrait utiliser une nomenclature bien plus fine que celle des seuls GSP, les groupes socioprofessionnels, mais on se heurte à des problèmes d'analyse. Hein. On est sur une commune de 2000 habitants, avec un mode de recensement rénové, une extraction au quart, etc. Donc voilà. Ce que je disais, donc, c'est que l'approche de terrain, elle s'est structurée avec une approche qui est plus proche, finalement, de la sociologie politique critique que celle de la géographie électorale canonique ou dominante, puisque, alors, il y a évidemment une approche statistico-cartographique, on pourrait dire, mais il y a surtout des questionnaires collectés au moment du premier tour de la présidentielle 2007, avec un taux de retour de 365. Alors, j'avais collecté à peu près 2000 questionnaires au moment, dans 8 communes périurbaines différentes, mais je travaille ici sur un sous-échantillon de la commune de Mattequeux, qui représente 365 individus, soit un taux de retour de 62% des inscrits d'un seul des deux bureaux de vote de la commune, celui où les lotissements les plus récents sont présents, ce qui renvoie à un petit biais, mais on pourra en discuter ensuite. Bon, on peut préciser, sans que je m'envoie de fleurs ici, ni à mes collègues qui m'ont aidé pour enquêter, que 62% de taux de retour d'un questionnaire sur un questionnaire, c'est un taux de retour qui est très élevé en sciences sociales, surtout pour un questionnaire qui comprend des éléments sur les revenus, la pratique religieuse, la catégorie socioprofessionnelle, le vote. Hein, on balaye, il manque que les préférences et orientations sexuelles, mais on est là dans le cumul de plusieurs thèmes qui sont des objets chauds parmi les plus difficiles à aborder en sciences sociales. Et puis aussi, une quinzaine d'entretiens avec des élus, des candidats et des habitants dits ordinaires réalisés au moment de la campagne de 2008 ici. Et puis l'observation des deux seules réunions publiques de campagne qu'il y a eu. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure justement, c'est que on lit dans la démographie scolaire de l'époque les effets de cette urbanisation qui a été saccadée. Je mettais des slogans qui tranchent avec le paysage local. J'étais tout content moi d'un point de vue personnel, de voir des banderoles comme ça en arrivant pour aller faire un entretien avec le maire de la commune, je me suis dit, ah ça tombe bien, qu'est-ce qui se passe, des banderoles. Et donc c'est la question d'une fermeture de classe, hein, et pas pour un changement d'une société post-capitaliste, on l'imagine, qui anime les habitants de Mattequeux ici. Mais ça c'est très intéressant parce que ça montre que les transformations démographiques de la commune constituent un enjeu majeur. Si on le voit ici, entre cette inversion, cette transformation démographique, on la lit ici, entre le recensement de 68 et celui de 2009, hein, si on fait le total des habitants de moins de 20 ans, il passe de 42 à 26%. Et à l'inverse, le total des plus de 50 ans passe de 21 à 43%. Autrement dit, on a une commune qui est marquée par un vieillissement très important. Et c'est intéressant, ces deux pôles, et je m'arrête dessus, parce qu'on est sur une élection municipale. Or, l'accueil de la petite enfance fait partie de domaines de compétences municipaux. Et par ailleurs, toute une série d'activités qui sont mises en place pour les retraités, en particulier les jeunes retraités, peuvent aussi, d'un certain point de vue, relever du domaine de compétences municipales. Autrement dit, outre le rythme saccadé de l'urbanisation, hein, le profil sociologique des nouveaux habitants pèse aussi sur la démographie scolaire, puisque compte tenu du prix des terrains et des pavillons, les seuls primo-accédants qui sont susceptibles de s'installer dans cette commune sont des trentenaires, sont soit des quinquagénaires ou des habitants plus âgés qui en sont à leur troisième ou quatrième achat, et s'ils sont en âge d'avoir des enfants, ce sont des trentenaires qui appartiennent aux classes supérieures et dont les enfants nourrissent les effectifs de l'école. Ce qu'on peut dire, au-delà de ce petit détour, c'est que la question scolaire cristallise en fait toute une série de tensions internes à l'espace social local et qui donne à lire des attentes contradictoires entre différentes fractions d'habitants qu'il s'agit justement d'examiner dans ce travail. Alors, à partir pour essayer de cerner un petit peu l'espace social local, à partir de cette enquête par questionnaire, j'ai procédé à une analyse quantitative, qui est une analyse des correspondances multiples, puis ensuite à une typologie qui permet de classer, de faire des groupes d'habitants qui partagent un certain nombre de propriétés dans leurs réponses au questionnaire. Vous voyez, la liste des variables se trouve ici. On a les différentes tranches d'âge, les niveaux de diplôme, les groupes socioprofessionnels, les revenus mensuels, le volume du patrimoine, l'orientation à la pratique religieuse, l'ancienneté de la résidence locale, le statut d'occupation du logement et les votes et un autopositionnement politique. Les votes à la fois en 2007, et puis il y avait aussi les votes passés, mais je crois que je ne les ai pas mis ici. Les modalités de chacune des variables s'organisent en fonction des réponses des individus, ce qui fait que se retrouvent ici tous les individus qui sont dotés de patrimoine et de revenus élevés. On trouve par exemple les modalités de variables plus de 4 200 € par mois, patrimoine fort, profession libérale et indépendante. Bon, on trouve de droite et Nicolas Sarkozy juste à côté, par exemple. De l'autre côté de l'espace factoriel, on retrouve les individus, donc la première opposition, c'est une opposition patrimoine, revenu plus moins, avec des étudiants, 18-24 ans, aucun patrimoine, locataire, moins de 1 700 €.
Donc ça, c'est la première dimension, on pourrait dire, de cet espace social local. Et la deuxième dimension, c'est une opposition entre les positions électorales de gauche et ceux qui se disent non-croyants, et ceux qui se disent de droite et catholiques pratiquants. On a par exemple plus de 65 ans pratiquants, aucun diplôme ou certificat d'études, ici c'est plus en fait un effet de génération, et ici on trouve royal, de gauche, non-croyant, 35-49 ans, propriétaire accédant, là depuis 5 ans. À 15 ans par exemple. Et ce que je vais vous proposer rapidement, c'est un balayage très rapide, Philippe tu me feras signe au niveau du temps, hein, de ces quatre grandes ellipses, les ellipses ici 1, 2, 3, 4, qui regroupent les différentes classes, les groupes d'habitants qui composent donc le peuplement local. Alors, premier groupe, celui qui se trouve ici, là, le groupe numéro 1. Ici, ce premier groupe, il rassemble essentiellement des membres des classes supérieures, des chefs d'entreprise, des professions libérales, notamment de santé, qui sont très présentes sur la commune, ou alors des fractions supérieures des couches moyennes salariées, notamment du secteur privé. La plupart sont âgés de plus de 50 ans, ils sont dotés de revenus et de patrimoine élevés, les trois quarts se disent politiquement de droite, et 80% ont voté pour Nicolas Sarkozy en 2007. D'ailleurs, dans un entretien qui sert un peu à chaque fois, je vais procéder par une petite très rapide descriptif quantitatif comme ça, et puis je vais essayer d'éclairer ou d'incarner un petit peu par des extraits d'entretien très rapides, vu le temps, chacun des groupes. Dans un entretien, justement, avec un habitant de ce profil, dont le système de valeurs est libéral, et selon lequel l'ordre des choses doit s'organiser, alors quand je ferai ça, c'est un extrait d'entretien, naturellement, entre guillemets, eh bien, il ironise sur les tentatives de planification de la commune. Il raille notamment une volonté des élus de tout mettre en équation, ce qu'il associe à un esprit marxiste qu'il aborde, on l'aura compris. Et en fait, ce qu'il reproche à de telles politiques, c'est ce qu'il appelle leur autoritarisme, et il ne les juge pas compatibles avec l'idée de liberté, de choix des individus. C'est donc finalement le principe même de l'encadrement politique de l'urbanisation qu'il rejette, et c'est aussi, en filigrane, la perspective d'une urbanisation trop prononcée qui l'inquiète le plus. Ce qu'il appelle la banlieue, entre guillemets, porte à ses yeux le risque d'un affaiblissement de l'entre-soi local. Mathieu n'est plus ce qu'il était avant. D'autres habitants au même profil, hein, souvent déjà propriétaires avant d'arriver dans la commune, à partir de la fin des années 60, qui sont propriétaires de leur logement pour les deux tiers d'entre eux, émettent le même type de réserve sur les évolutions en matière d'urbanisation et valorisent leur commune résidentielle où il fait bon vivre. Ces habitants, qui pèsent lourd, tant en raison de leur nombre que de leur statut, hein, social et symbolique, et qui ont toujours été bien représentés au sein des conseils municipaux successifs, vont jouer en fait de tout leur poids dans la définition locale des enjeux électoraux, puis dans la construction des offres. Le deuxième groupe, qui se trouve ici, se caractérise également par des attitudes électorales favorables à la droite, mais aussi au centre droit. Ils sont dotés de revenus confortables, ce sont plutôt des cadres et des professions intermédiaires, du privé, mais aussi du public. On est donc, par rapport à ce premier groupe, un petit peu plus bas dans l'hiérarchie sociale. Les membres de ces ménages sont plus fréquemment arrivés dans leur commune depuis moins de 15 ans, et ils sont un peu plus fréquemment que les précédents des propriétaires accédants. Ils sont donc aussi plus jeunes. Ils sont donc aussi plus nombreux à avoir une image positive de la ville de Caen, qui est voisine. Pour ces habitants, le capital symbolique qui est conféré par le fait de vivre à Mathieu compte moins ou peu dans la stratégie résidentielle, notamment par rapport au premier. Par exemple, arrivée récemment, trentenaire et cadre du secteur privé, une habitante récente semble prendre en entretien une certaine distance avec l'image associée à la commune dans les représentations localement dominantes, et notamment ce terme de Neuilly-Canet, hein, qui est une expression dite indigène dans l'approche ethnographique, même s'il ne s'agit pas ici d'une approche ethnographique, hein, c'est un propos d'enquêté que cette expression de Neuilly-Canet. Bref, elle prend ses distances tout en notant qu'il y a quand même du fric. Elle est à l'aise financièrement, elle est heureuse dans ce secteur résidentiel qu'elle assimile à la campagne, alors qu'on est à 10 km de Caen, mais à peine, hein, et où elle dit s'être bien intégrée via deux institutions locales qui sont importantes pour elle, l'école d'un côté et la paroisse de l'autre. Les représentations et attentes locales des habitants de ce profil sont d'ailleurs très contrastées. Certaines vont souligner la qualité de vie de la commune et les récents aménagements qui la confortent, quand d'autres, et notamment les parents de jeunes enfants, vont estimer que les choses évoluent bien, mais qu'il faudrait faire plus encore en matière de services, et que d'autres, encore, critiquent, au contraire, les options de développement prises par la commune, et notamment son urbanisation, à l'image du premier groupe décrit, le groupe numéro 1. Par rapport au premier groupe évoqué plus haut, qui était certes plus homogène sociologiquement, les attentes de ce deuxième groupe en matière de politique de développement de la commune, et donc de demande électorale, semblent donc aussi moins homogènes, ce qui prédisposait sans doute ses membres, au moment du scrutin municipal, à peut-être moins concentrer leur suffrage par rapport à une seule liste que je vous présenterai ensuite. Deuxième type de profil, c'était à droite l'alliance historique entre travailleurs indépendants et cadres du privé, à gauche un front commun des fractions des couches moyennes, point d'interrogation. Alors, dans cette autre partie, ici, du plan factoriel, un troisième groupe se caractérise par des systèmes de valeurs qui sont clairement ancrés à gauche.
Il rassemble des habitants qui sont issus des fractions supérieures des couches moyennes, au sein desquelles dominent les cadres et les professions intermédiaires du secteur public, qui sont liés, selon l'expression de Bourdieu, à la main gauche de l'État, c'est-à-dire l'enseignement, le travail social, la santé, la culture. Un quart de ces habitants sont cependant des cadres ou des professions intermédiaires du privé. Ils sont plus jeunes que le deuxième groupe. Les trois quarts d'entre eux, par exemple, ont entre 35 et 49 ans, et ils sont propriétaires accédants et arrivés depuis 5 à 15 ans, beaucoup plus fréquemment que les autres. Une partie de ce groupe est toutefois arrivée plus tôt et appartient aux premières vagues de ce que la sociologue Catherine Bidou a appelé les aventuriers du quotidien, qui avaient largement investi les conseils municipaux des communes périurbaines, notamment lors des scrutins municipaux intermédiaires de 77 puis 83, même si ici c'est pas valable pour le conseil municipal de Mathieu. Tous ou presque ici se déclarent de gauche ou de centre-gauche. Au premier tour du scrutin présidentiel de 2007, 60% ont voté pour Ségolène Royal et 20% pour François Bayrou. Ils ne sont donc pas non plus très à gauche. À l'instar d'un habitant dont je vous livre un petit extrait d'entretien, qui est intéressant parce que sa perception et ses valeurs illustrent bien celles qui définissent son groupe. Il nous dit, cet habitant, « Mathieu est un îlot, véritablement un îlot, loin des grands problèmes qui parcourent la société française. Enfin ici, il y a très peu de gens qui se préoccupent du prix de paquet de pâtes. Il y a très peu de gens qui se préoccupent, je dirais également, des filières pour leurs enfants. » À moins de choisir la filière d'excellence. Mais les filières les plus basses, les moins cotées, ça ne les concerne pas. Voilà. Nous sommes dans un îlot protégé loin des turbulences du monde. Les gens qui sont ici se donnent les moyens, soit financiers, soit intellectuels, de faire perdurer leur statut social à travers leurs enfants. Les gens ici connaissent les voies pour que leur enfant arrive à avoir ce qui leur permet ensuite de continuer, à avoir une certaine qualité de vie, tout en sachant que nous insistons beaucoup avec mon épouse et moi, à travers la lecture de journaux, à travers l'écoute de radios multiples, sur le fait et la nécessité de ne pas être indifférent à la situation dans le monde, à la souffrance. Bref, on voit que dans son discours, la maison ici constitue, dans d'autres extraits d'entretien, le cocon protecteur familial au sein duquel les enfants sont élevés, par opposition au danger du dehors, un îlot protégé loin des turbulences du monde, comme dans les premiers travaux sur les pavillonnaires, notamment ceux réalisés sous l'impulsion d'Henri Lefebvre. Et par l'éducation qu'il leur donne, cet enquêté prépare ses enfants à comprendre le monde extérieur avec humanisme, tout en leur offrant de sérieux atouts dans la compétition scolaire, un apprentissage de plusieurs langues, lecture quotidienne de la presse internationale. Et quand il évoque la reproduction sociale, cet homme rappelle que la propension des mathieusiens à former des héritiers est d'autant plus grande que les enseignants, dont il fait justement partie, sont très fortement surreprésentés dans la commune. Et comme lui, d'autres habitants de ce profil ont une image négative de la commune, justement en raison de son homogénéité sociale qui est jugée trop tranchée et de l'absence de lien social qui serait tissé localement. Cependant, et bien que de gauche, une minorité de ces habitants, qui sont propriétaires accédants depuis peu et venus pour le cadre de vie offert par la commune, expriment aussi, à l'inverse, leur volonté de voir l'urbanisation limitée. Les membres du quatrième groupe, je passe assez vite, pour en discuter ensuite, les membres de ce quatrième groupe sont à la fois plus ancrés à gauche et beaucoup moins élevés dans les hiérarchies professionnelles, puisque plus de la moitié sont ouvriers ou employés. Ils sont aussi plus jeunes que les autres, même si quelques habitants âgés rappellent l'existence avant-guerre d'un Mathieu plus populaire. Les deux tiers de ces habitants font partie de ménages qui sont dotés de moins de 3000 euros mensuels et près de la moitié sont locataires. Ils se disent très majoritairement de gauche, la moitié ayant voté pour Royal, mais aussi un quart pour un candidat situé à sa gauche en 2007. Là encore, les représentations qui sont entretenues à l'égard de la commune sont également très diversifiées et cohabitent des images positives qui sont construites sur le mode de la commune où il fait bon vivre, et d'autres, notamment plus fréquentes chez les habitants plus jeunes, qui mettent l'accent sur la nécessité de dynamiser la commune pour qu'elle offre plus d'activités, plus de services, et d'autres habitants, notamment les plus âgés, qui insistent de manière négative sur les transformations du cadre paysager et sur ses conséquences en termes de perte du caractère « rural » entre guillemets de la commune. Enfin, je passe très vite sur ces deux ellipses ici 5 et 6 qui renvoient à deux groupes particuliers. L'un renvoie aux jeunes adultes mais qui va peu nous intéresser ici parce que ce sont en fait des jeunes adultes qui sont inscrits sur liste électorale ce jour-là et venus voter mais qui vont moins nous intéresser ici. Et cette ellipse-là concentre notamment les blocs qui renvoient aux modalités de variables de non-réponse ici. Ce qui est intéressant, c'est quand même que ici, on s'aperçoit que ce bloc des non-réponses, il est situé plus près des habitants les plus âgés, des habitants plus faiblement diplômés, donc qui constitue un angle mort relatif de l'enquête. Deuxième partie, maintenant qu'on a essayé de balayer à la fois ces groupes sociaux en présence d'un côté et les demandes électorales qu'ils portent dans le champ municipal, quelques éléments sur l'offre électorale qui est marquée à la fois par la convergence des programmes, pour reprendre une expression de collègues politistes, et d'un autre côté par les tentations partisanes. Ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, c'est que les attentes en matière de développement municipal ne renvoient donc que partiellement au système de valeurs et aux positions sociales des habitants. On a vu que même dans des groupes sociologiquement homogènes, il y avait des attentes qui étaient partiellement contradictoires, et on verra qu'elles sont indirectement, notamment liées à l'âge et à la place des enfants. C'est donc finalement sur la capacité de chacune des listes qui va être candidate à construire un projet qui mobilise des suffrages au-delà de ces réseaux d'influence établis que va reposer la conquête du pouvoir local. À la fin de l'année 2007, le maire sortant, qui avait annoncé qu'il ne se représentait pas, parvient à faire voter le nouveau PLU, le plan local d'urbanisme de la commune, à l'unanimité, moins une abstention, qui est liée à un document reçu en retard. Bref, le conseil municipal, qui comprend des habitants qui sont issus des trois premiers groupes évoqués plus haut, qui avaient été élus principalement sur une liste, mais on pourra y revenir après, a, dans sa quasi-totalité, validé le nouveau PLU. Alors, conscient de la forte attractivité d'un secteur géographique qui est doté de fortes réserves foncières, les élus s'accordent sur la nécessité d'organiser, je cite, « un développement volontairement limité de la fonction résidentielle, tout en garantissant, je cite, aux villages anciens l'environnement très préservé que justifie le cadre architectural ». Et dans ce cadre politique d'animation-là, le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable, qui est un document annexé au PLU, pose justement que le projet communal a notamment pour objectif, je cite, de diversifier l'habitat et renforcer la cohésion sociale, et plus précisément d'imposer la réalisation d'un taux minimum de 20% de logements locatifs publics dans les projets de développement urbain futurs qui verront le jour. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une commune qui, à l'époque, fait moins de 3500 habitants. C'est donc une commune qui n'est pas soumise à la loi SRU, la loi dite solidarité et renouvellement urbain, qui est la loi qui imposait, puisque maintenant il y a la loi SRU 2, mais la loi qui imposait à toutes les communes de plus de 3500 habitants localisées dans un EPCI de plus de 50 000 de construire 20% de logements sociaux. Maintenant, le seuil a été porté à 25% et la taille de la commune diminue. Mais ce qui est intéressant, c'est que la commune n'est pas obligée de le faire, mais le maire sortant, en lien avec toute une série de prédispositions, à mon avis, sociales et politiques, le maire est président d'un bailleur social important de l'époque de l'agglomération. Bref, la commune décide d'essayer de tendre vers ce 20%. Or, on a vu qu'on en est loin, hein, globalement, vu la structure sociale locale. Et donc, sans successeur désigné, le maire sortant va initier en décembre 2007, donc 3 mois avant les municipales, une réunion pour les sortants qui envisagent de se représenter. Et au cours de cette réunion, le consensus, qui était préservé jusque-là par le maire sortant, va se fissurer définitivement. Et un élu de l'époque témoigne ainsi, je cite l'excellent entretien, « Et puis ensuite, il y a une réunion organisée entre cette dizaine de personnes, et là, on a constaté que là, ça a franchement éclaté. Ça a éclaté, disons, en 3 morceaux. Vous voyez, sur 10 personnes, bon, et y compris au niveau des adjoints. Alors, on a surtout parlé des questions d'urbanisme, essentiellement d'ailleurs, parce que, bon, on vient d'adopter le nouveau PLU. Seulement, ça, c'est des mots, si vous voulez. Et depuis 2 ou 3 mois, on a commencé à passer aux travaux pratiques, en particulier sur les 3 secteurs qu'on a classés à urbaniser dès que possible. » Donc on a fait faire des avant-projets à des architectes, des urbanistes, pour essayer d'établir une sorte de cahier des charges. Et là, on a vu apparaître combien de logements ça pouvait concerner, entre 100 et 120 logements. Et là, un certain nombre d'élus, et en particulier des adjoints qui habitent à proximité, ça a été « Oulala, on veut bien du logement social, mais pas trop près de chez nous ». Du coup, c'est ce qui m'amène à ma deuxième partie, enfin ma première ici sous-partie, qui s'appelle « De l'importance des petites distances sociales et du capital symbolique pour distinguer les 3 listes ». En fait, au cours de ce scrutin municipal à Mathieu, va se structurer une offre électorale formée de 3 listes complètes, ce qui est une offre électorale qui est marquée par un haut degré de compétition pour une commune de 2000 habitants. Hein. 3 listes complètes, c'est important, notamment quand on a des adjoints sortants et des conseillers sortants sur toutes ces listes. Et donc l'offre électorale se compose de 3 listes complètes, structurées autour de maires adjoints et de conseillers sortants. Ici, 2 clivages sociologiques fondamentaux permettent de dessiner les contours des fractions internes au classement aîné supérieur de la commune. C'est le clivage salarié-indépendant et le clivage public-privé. En fait, Mathieu se distingue par un profil sociologique très spécifique de ses candidats, puisqu'en moyenne, seulement 20% des conseillers municipaux élus en 2008 appartiennent à la catégorie des cadres dans une commune de petite taille en moyenne, alors qu'ici, on a un degré, une proportion de cadres beaucoup plus élevée. Si on regarde rapidement, je vais passer sur chacune des listes ensuite, mais si on regarde sur les 19 listes ici, le total des indépendants, cadres et professions intermédiaires, on en a 13, je crois. Ici, 17 sur 19 des habitants appartiennent aux cadres, professions intermédiaires et indépendants. Alors regardez, prof de médecine, agent technique, certes, mais adjoint sortant, économiste de la construction, chef d'entreprise, exploitant agricole, membre du CESR, cadre, administrateur de réseau, donc cadre, exploitant agricole, ostéo, délégué médical, commerçant retraité, cadre, expert comptable, chargé d'affaires. On est loin ici des classes populaires. Donc, la structuration ici des listes accentue encore le profil sociologique déjà très marqué de la commune.
Alors, quelques indicateurs ici sont intéressants, je vais balayer rapidement. On a la place des emplois qui sont relatifs au monde de la santé et de l'éducation parce que
il y a deux pôles qui sont importants dans la commune. Il y a beaucoup de profs et de profs retraités notamment. Et il y a beaucoup de médecins pendant longtemps. Il y avait 80 médecins résidents sur la commune alors qu'il n'y avait aucun médecin qui avait un cabinet d'ouvert dans la commune. C'est un bon indicateur de la sélectivité sociale du peuplement. Et donc, c'est intéressant parce que derrière santé et éducation, il y a toute une série de clivages sociaux auxquels ça renvoie. Il y a le nombre de femmes. Ici, nombre de femmes sur la liste, 7 sur 19, 4 sur 19, dont une seule dans les 10 premières de la liste, dans les 10 premiers de la liste. Ici, 6, dont 3. Ici, on est quand même très loin de la situation paritaire, 7 sur 19, mais 5 sur 10. Même si on le voit aussi, hein, c'est un des registres, c'est pour ça que je renvoie à l'article sur la question de l'entre-soi masculin en politique, même si les femmes sont souvent sur les listes parce qu'elles sont sortantes, ce qui compense, entre guillemets, leur domination par un élément de capital politique local, on pourrait dire. Donc la première liste qui est ici, la liste qui s'appelle Vivre à Mathieu, est conduite par deux sortants, tous les deux de plus de 60 ans, un enseignant retraité adjoint, sortant délégué aux affaires scolaires, et une pharmacienne retraitée adjointe, sortant déléguée aux affaires sociales et actions culturelles. Donc vous voyez, un prof aux affaires scolaires, une pharmacienne, certes on pourrait dire, mais aux affaires sociales et culturelles. La moyenne d'âge de cette équipe est plus élevée que celle des autres, mais elle baisse sensiblement si le calcul exclut les sortants. En effet, une partie des candidats y ont été recrutés parmi les habitants trentenaires dont les enfants sont scolarisés dans la commune, afin notamment de donner des gages par rapport au projet politique de la liste. 5 candidats sont liés au secteur public, dont 4 à l'éducation, et donc leur représentation n'est pas écrasante. Parmi les quelques candidats qui n'occupent pas un emploi de travailleur indépendant, de cadre aux professions intermédiaires, se trouvent 2 techniciens, un employé, mais qui est conseiller sortant, une assistante maternelle, mais qui est donc liée au monde éducatif, et une secrétaire, certes, mais trilingue. Bref, si on regarde de plus près la géographie, la microgéographie de la liste, elle est caractérisée par une implantation qui est diffuse sur le territoire communal, ici, avec une bonne représentation des lotissements récents. Dans sa profession de foi, la liste explique qu'elle est, je cite, « largement ouverte à une nouvelle génération, dynamique et motivée, représentative, je cite toujours, hein, représentative des différents quartiers, tous sont animés par la même volonté de s'investir au service de l'intérêt général, et elle met en avant cette diversité. » Ça, c'est une stratégie de mobilisation qui est importante dans des contextes périurbains où les propriétés sociales et les attentes des habitants peuvent varier fortement selon les vagues d'arrivée, selon les âges des différentes étapes du peuplement. Enfin, la liste est la plus féminisée de toutes, hein, 7 femmes sur 19, dont 5 parmi les 10 premiers. Au total, on pourrait penser que la liste Vivre à Mathieu pourrait répondre aux attentes du groupe des cadres et professions intermédiaires du public, dont les demandes en matière d'équipement scolaire et culturel sont fortes, comme à celles aussi des nouveaux arrivants. La deuxième liste à s'être déclarée est celle qui s'appelle « Pour l'avenir de Mathieu, des projets maîtrisés ». Son principal animateur est l'adjoint sortant délégué à l'urbanisme, qui est par ailleurs chef d'une importante entreprise du secteur de la construction. Mais la tête de liste est en fait un professeur de médecine, Jean-François Héron, donc on parle bien des municipales de 2008. Hein. La tête de liste est un ancien professeur de médecine, enfin est un professeur de médecine, également ancien directeur d'un centre de recherche spécialisé en cancérologie d'envergure nationale, le centre Baclès. Ce statut, il est censé lui conférer localement un précieux capital symbolique, d'une part parce qu'il y a un ancien maire entre 77 et 89, que les habitants appellent encore le docteur Abatucci, hein, était lui aussi directeur du centre Baclès, et d'autre part parce que le statut mixte de professeur des universités praticiens hospitaliers, hein, PUPH, est de nature à rassembler à la fois les enseignants d'un côté et les médecins de l'autre, qui sont deux groupes très puissants symboliquement dans la commune, symboliquement mais aussi numériquement. Et donc leur voix pèse. La liste ne comprend toutefois que 3 habitants qui travaillent dans la santé, dont 2 médecins spécialisés. Ce qu'on peut dire ici, c'est que en août, 2 seuls candidats occupent des positions professionnelles moins valorisées. Ce sont des candidates, une agente technique, mais conseillère sortante, et une déléguée médicale, donc liée à l'univers de la santé qui est présent localement. Les femmes sont plus généralement sous-représentées sur cette liste, qui n'en compte que 4, dont une seule, qui plus est sortante, dans la première moitié de la liste. La moyenne d'âge, 51 ans sortant exclu, est par contre proche de celle des autres listes. Et si on regarde la géographie des habitants de la liste, elle est ancrée notamment autour de la partie orientale, en partie de la commune, et dans des secteurs anciens du bourg, mais aussi dans ce parc viking, qui est un ancien lotissement plus privé, qui est un peu spécifique à l'entrée de la commune de Mathieu. La troisième liste, celle qui s'appelle « Mathieu pour vous et avec vous », elle est déposée seulement une dizaine de jours avant le premier tour. Elle est sans leader affiché et elle est construite à l'initiative de 2 adjoints sortants, le directeur d'un collège privé et un ancien ouvrier devenu entrepreneur dans la métallerie. Ces deux adjoints, quelques mois plus tôt, ce sont eux qui ont exprimé ouvertement leur réticence sur l'application d'une partie du PLU. Et d'ailleurs, la géographie des candidats de cette liste révèle que 6 de ces candidats, dont les deux adjoints sortants, vivent à proximité de ce quartier, à proximité de cette petite dent creuse là qui s'appelle la gare, et qui est un des quartiers qui doit être urbanisé en priorité, et notamment accueillir une partie de ces 20% de logements sociaux. Donc un tiers presque des habitants de la liste, dont j'ai pu trouver les références dans l'annuaire, habitent à proximité directe de cet espace. Plus largement, les deux tiers des candidats habitent dans la partie ouest de la commune, qui est la plus ancienne, et où la majorité du tissu pavillonnaire date des années 70-80. De plus, et contrairement aux apparences, les candidats les plus jeunes de la liste ne sont pas arrivés récemment dans la commune, et leur différence d'âge avec les sortants est presque inexistante. Cette ambiguïté, d'ailleurs, elle subsiste à la lecture de la profession de foi de la liste, qui évoque, je cite, « l'expérience de 4 membres du conseil sortant, dont 2 adjoints, et la complémentarité et le dynamisme de 15 « nouveaux », entre guillemets, sans que l'on sache si ces nouveaux sont simplement des non-sortants ou des nouveaux habitants ». Ces candidats, ils appartiennent à des univers sociaux qui sont à mi-chemin entre les deux autres listes. On aurait en gros un pôle très santé et un pôle plus éducation. Ici, c'est la liste qui est la plus équilibrée, entre guillemets, entre ces deux pôles. Voilà ce qu'on peut dire sur une rapide sociogéographie des listes en présence. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la question de la convergence des programmes autour de l'application du PLU et de la préservation du cadre, entre guillemets, résidentiel et rural. En dépit des contrastes sociologiques que je viens d'essayer de mettre en évidence, ces trois listes, elles présentent finalement des projets municipaux qui sont proches. D'autant que les élus sortants, qui s'y figurent sur ces listes, ils se réclament tous de l'héritage de la mandature précédente, à laquelle ils ont tous contribué, et ce qui concourt ainsi au processus de convergence des programmes. Cela dit, si on regarde un petit peu plus dans le détail, l'analyse des professions de foi de ces listes et les entretiens que j'ai réalisés montrent que ce que certains présentent comme étant des conflits de personnes, entre guillemets, évoqués par nombre d'habitants ordinaires, cachent en fait des clivages politiques essentiels pour comprendre à la fois le scrutin, mais aussi son issue. Si on regarde sa profession de foi ou le tract que distribue aux habitants, la liste qui s'appelle « Vivre à Mathieu », la première que j'ai présentée, elle met l'accent sur la vie des habitants de la commune dans tous ses documents de campagne. Je cite « La plupart des candidats ont participé à l'animation d'activités qui contribuent à la qualité de vie dans la commune. Cette caractéristique crédibilise notre propos et marque notre identité. » La profession de foi insiste sur les actions envers l'enfance et la jeunesse, sur le soutien à l'école, sur l'attention à la qualité de vie des personnes âgées et plus largement sur l'importance du lien social entre habitants de plusieurs générations pour qui, je cite, Mathieu ne doit pas devenir un village dortoir. Et l'attachement des initiateurs de cette liste à ces questions n'est sans doute pas sans rapport avec le travail qu'ils ont accompli en commun dans le cadre de leur délégation de maire adjoint à la fois à la culture d'une part et aux affaires scolaires d'autre part. Et dans le contexte d'une élection très disputée, mais sans étiquette partisane, ces thématiques de campagne ainsi que les propriétés sociales des colistiers ont participé à ce que leur démarche soit parfois présentée, notamment par leurs adversaires, comme une candidature de gauche. Je cite, les rumeurs disaient qu'on était une liste de profs. Ce dont les intéressés se défendent vigoureusement dans les entretiens, d'autant que leur tête de liste avait été candidat justement au municipal de 77, mais sous une liste estampillée PS, qui avait pris une raclée énorme dans la commune. Et on comprend bien, vu le contexte sociologique et politique, la commune a voté pour Nicolas Sarkozy à 40% dès le premier tour, on comprend bien que le fait de politiser au sens de partisan l'élection serait un désavantage important pour une liste candidate au municipal, surtout avec 3 listes en présence. Alors, dans des entretiens qui sont utilisés par des adversaires de cette liste, le terme péjoratif de cas social est par exemple utilisé, pas pour définir les candidats, bien entendu, mais il est désigné comme l'assimilation de l'engagement social à ce qui serait un combat d'arrière-garde, et ça renvoie à des critiques qui sont classiquement adressées par la droite à la gauche. Comme le dit un des adversaires, la population de Mathieu, je cite, ne demande pas à être prise par la main. Elle entend garder son libre choix. Autrement dit, elle n'a pas besoin de politique. Je cite, s'engager plus dans l'aide sociale reviendrait, selon lui, à créer le besoin, à dégrader la tranquillité et l'entre-soi local. Alors, derrière ces critiques, on voit bien poindre des systèmes de valeurs politiques qui se manifestent, et qui sont clairement ici ancrés à droite, dès qu'on touche à la question de l'urbanisation, mais surtout derrière à la question de l'entre-soi local. De sorte, la politique proposée par Vivre à Mathieu en la matière est pourtant construite en rapport avec le thème de la campagne principale de la liste, qui calibre le rythme souhaité pour l'urbanisation avec le fonctionnement des équipements municipaux et notamment de l'école, dont il ne s'agit pas d'ouvrir puis de fermer une classe sans arrêt, vu les investissements que ça représente, au gré des lotissements. La liste qui s'appelle pour l'avenir de Mathieu des projets maîtrisés, elle place également son projet dans le prolongement des conseils sortants. sa profession de foi, elle commence par un hommage à l'ancien maire et affirme que le PLU et le PADD seront leur feuille de route, je cite. L'usage de des sigles hein, et de la communication très graphique, très professionnelle de la profession de foi permet aussi de jouer sur la figure des bons gestionnaires, qui est déjà évoquée et qui est un classique de la sociologie des scrutins municipaux. Cette liste est celle qui propose aussi le programme fiscal le plus développé. Partant du principe que, je cite, « Mathieu bénéficie d'une fiscalité locale modérée et de finances saines », elle annonce la possibilité, grâce aux ressources financières que l'urbanisation fournira à la commune, de réaliser les projets tout en maîtrisant l'imposition locale et de réduire les taux d'imposition communaux afin de supprimer ce qu'ils appellent l'impact fiscal d'une instauration d'une fiscalité mixte à l'échelle de Caen-la-Mer. Bref, la recherche de l'équilibre démographique idéal se trouve également dans cette profession de foi. Cette profession de foi, elle mobilise également l'expression de mixité sociale et intergénérationnelle, qui est aussi employée par la première liste. Elle est ici reprise, mais le fait de présenter dans cette liste les jeunes à accueillir dans la commune comme les enfants ou petits-enfants des habitants, eh ben, ça paraît pour le moins incohérent avec l'idée de mixité sociale, surtout quand on connaît la force des processus de reproduction sociale entre générations. Quoi qu'il en soit, la mise en application du PLU ne peut être pour eux pensée uniquement à l'échelle communale, mais dans une perspective plus large qui donne à voir aussi l'état d'esprit de la liste. En effet, pour cette liste, le PLU est conçu comme un rempart contre d'éventuelles décisions extérieures, et notamment celles qui pourraient venir de Caen-la-Mer, plus que comme une adhésion politique au principe de mixité sociale, hein, à l'image de l'allusion sur les enfants et petits-enfants des habitants de la commune qui seraient accueillis. Les mots employés sont d'ailleurs révélateurs. Le PLU est perçu dans les entretiens comme un outil pour « bloquer le système » entre guillemets et préserver tout autant les paysages que l'entre-soi grâce à ce qui serait une rupture verte présentée comme une mesure environnementale dans la commune pour préserver des unités foncières. De ce point de vue, le premier paragraphe de la profession de foi hein, qui est nommé « valoriser le patrimoine », valoriser le patrimoine, préserver l'environnement, privilégier le paysagement » montre bien comment les questions environnementales ou les questions de patrimoine peuvent être mobilisées comme des paravents pour éluder finalement les questions sociales en invoquant l'idée d'un patrimoine commun alors même qu'il s'agit de défendre des patrimoines individuels. Et au détour d'une question d'entretien sur la position des listes adverses, ce candidat de la liste l'exprime d'ailleurs assez clairement avec moi en entretien. Je cite « Et la troisième liste, celle qui est Mathieu pour vous et avec vous, c'est du protectionnisme, c'est celle dont je vais parler ensuite. Je la vois comme ça, je considère que c'est protéger mon petit chez moi, mais bon, je pense que la meilleure des protections, c'est de s'ouvrir en maîtrisant notre destin et de ne pas le laisser aux autres. Je ne cesse de dire que le jour où nous n'aurons plus la maîtrise de l'urbanisation, ou quand la mer aura la maîtrise, quand la mer aura un défi, elle saura bien où trouver nos terrains. Alors autant se prendre en main tout de suite et participer que de vouloir... Quand je me projette par rapport aux autres listes, je dirais qu'il y a deux extrêmes et moi, j'essaie de me trouver au milieu. » Alors je le relance en disant « Quand vous dites deux extrêmes, vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire qu'on pourrait les situer politiquement ?» Il dit « Non, parce que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Mais si, par les raisonnements, ça se perçoit, si vous voulez. » Je dis « Oui, la première, par exemple. » Il dit « La première, pour moi, c'est une liste de gauche. C'est un raisonnement de gauche. C'est le raisonnement du Parti Socialiste. C'est bon, je ne me reconnais pas dans cette manière de voir les choses. Moi, je dis que la préservation du patrimoine de chacun, il tape avec son stylo sur la table, la préservation des biens de chacun est tout aussi importante que la gestion du quotidien. Parce que là, si on est élu, on a une responsabilité. On aura une responsabilité d'élu. Les gens qui sont venus à Mathieu, les jeunes qui ont acheté à Mathieu, les moins jeunes aussi qui ont acheté à Mathieu, ils ont fait un investissement. Et on est en charge de ce patrimoine. On a à faire en sorte que les patrimoines ne se dévalorisent pas. Moi, je tiens ce discours haut et fort, et dans la liste, on le partage. Et voilà ce qui peut nous différencier des autres aujourd'hui. » Dans cet extrait d'entretien, cet habitant, il moque la vision à court terme, selon lui, de la liste Mathieu pour vous et avec vous, hein, celle qui veut surtout s'intéresser aux questions éducatives, culturelles, etc., qui défendrait un petit chez moi. Et ce candidat souligne que la meilleure des protections consiste à agir soi-même, ce qui revient finalement à admettre que la démarche de sa liste est au fond exactement la même que celle qui souhaite bloquer le PLU parce qu'il ne veut pas voir le changement social arriver dans la commune. Et finalement, c'est sa perception de la première des listes qui éclaire son propre positionnement politique, qui est un positionnement politique qu'on peut classer à droite. Il aborde en effet de front l'enjeu patrimonial, de sorte que sa position personnelle et la démarche de la liste consistent à défendre les patrimoines que constituent les biens immobiliers des habitants de la commune, qui ne doivent pas se dévaloriser économiquement en cas de modification, sous-entendu, de la structure sociale locale. Bref, l'investissement, entre guillemets, des particuliers étant placé dans son discours sous la protection des élus dans une perspective utilitariste. Et donc, si les projets de ces deux listes, la première que j'ai présentée, qui va être associée dans la campagne à la gauche, et celle que je viens de présenter, qu'on peut associer en termes d'analyse à la droite, est-ce que le projet de la troisième liste, on peut en dire autant ? Cette dernière liste, elle donne assez rapidement le ton de son programme dans sa profession de foi, où la commune doit être, je cite, sauvegardée contre une menace qui pèserait sur elle. Et c'est la question de l'urbanisme, je cite, qui est longuement traitée dans le texte par rapport aux autres points du projet, qui constitue le péril en question. Une seule phrase condense d'ailleurs toutes les angoisses des candidats de cette liste, je cite, « L'authenticité de notre commune ne devra en aucun cas être sacrifiée au profit d'une urbanisation prolifique aux conséquences désastreuses et surtout irréversibles. » En fait, on voit bien ici, ce sont à la fois les rythmes, mais aussi les modalités de l'urbanisation de la zone, dont un tiers des élus sont riverains, qui cristallisent clairement les enjeux. Mais finalement, quand on en discute avec un entretien, les inquiétudes de ces élus sont finalement assez floues. Il dit, au global, ça faisait aux alentours de 62% de logements plus ou moins types sociaux, alors qu'en fait, pour arriver à ce calcul de 60%, il agglomère des catégories qui ne relèvent pas du logement social, et puis il prend en plus des petits logements sociaux qui sont situés déjà construits, non loin des habitants de cette commune. La concentration potentielle de ces logements au sein d'un même quartier reviendrait selon lui à implanter un quartier d'ouvriers, entre guillemets, qui est comparé à une tâche, entre guillemets, qui défigurerait la commune. Cette situation, elle lui paraît d'autant plus problématique que le secteur sera alors selon lui cerné par les logements sociaux et leurs habitants. Mais quand il évoque le projet de sa liste pour ce quartier, finalement, la principale différence réside dans une formule juridique qui privilégierait un lotissement communal qui accueillerait seulement quelques constructions, il dit, je sais pas, moi, 20-25 pavillons sur un rythme plus lent, sans remettre en cause finalement le PLU, qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes voté. Bref, des tentatives de rapprochement vont avoir lieu jusqu'au dernier moment entre cette liste et celle-là. Notamment du fait des positions des propriétés sociales et des positionnements électoraux plus proches de la droite des habitants de cette liste. Cela dit, les divergences sur les modalités d'application du PLU se sont doublées d'un refus de la tête de liste d'une des deux listes, tandis que, alors, en dépit d'une vision assez proche en matière de vie associative et culturelle locale, les habitants ont été considérés comme trop nombreux sur la liste de Vivre à Mathieu. Donc, cette liste-là a essayé de tendre la main ou de se recoller les morceaux entre guillemets avec les deux autres, mais pour des raisons différentes, ni avec celle-ci ni avec celle-là, il y a pu avoir de points d'accord. Enfin, dernière chose, l'offre électorale de la commune va comprendre également uniquement au second tour un candidat qui ne s'était pas présenté le dimanche précédent, puisque vous savez qu'on est ici en 2008 dans une commune de moins de 2000 habitants. Autrement dit, on vote pour des personnes qui peuvent être structurés sur des listes complètes ou incomplètes, mais pas forcément. Autrement dit, au premier tour sont élus tous les candidats qui, sur leur nom, recueillent plus de 50% des suffrages exprimés. Mais donc, il y a un deuxième tour ensuite où sont encore en jeu tous les candidats qui n'ont pas été réélus. Et on pouvait, à l'époque, je crois que ça a changé avec la réforme municipale qui a été introduite en 2014, mais à l'époque, on peut donc se présenter au deuxième tour sans l'avoir été au premier, puisque ce sont des candidatures individuelles. Et donc, on peut panacher, ce qu'on appelait panacher, c'est-à-dire rayon des noms de liste. Moi, j'ai assisté au dépouillement pour observer, ce qui était d'ailleurs intéressant. Donc, l'offre électorale, elle est complétée ou dans l'entre-deux-tours, par un candidat qui ne s'était pas présenté le dimanche précédent et dont le slogan est très explicite, hein, « Pour que Mathieu reste un village ». Sur son affiche, où il est photographié sur fond de prairie, cet agriculteur motive sa démarche consistant, selon lui et selon une forme de bon sens paysan, je cite, « à répondre simplement aux questions simples d'une commune ». Il s'agit de freiner de manière immédiate l'urbanisation de la commune. Il dit « il faut arrêter l'urbanisation à outrance et la folie des grandeurs ». Arrêter de transformer le village en ville et redéfinir le PLU avant qu'il ne soit trop tard. Dans le cas contraire, selon lui, Mathieu risquerait de devenir une ville et le discours qu'il mobilise renvoie à l'imaginaire qui est associé aux nuisances urbaines, notamment les difficultés de stationnement en voiture, etc. Alors, la candidature de cet agriculteur, alors pour vous dire très vite quelle est l'issue, vous voyez que dans mon travail, je me suis plus intéressé à la fois à la construction des demandes et à la construction des offres que au scrutin lui-même. Alors, je vais quand même vous donner l'issue du scrutin. À l'issue d'un premier tour qui a été marqué par un taux de participation de 67% des inscrits, qui est un taux de participation qui est assez faible au regard de deux choses, au regard du fait que dans une commune de cette taille-là, l'élection municipale normalement mobilise beaucoup, d'une part, et d'autre part, au regard de la configuration de l'offre électorale, trois listes complètes, et troisièmement, du fait qu'on a affaire à des catégories sociologiquement situées plutôt en haut des hiérarchies, un taux de participation de 67% des inscrits, c'est pas un taux très très élevé. Mais au soir du premier tour, les résultats qui ont été avancés très tard, puisque le dépouillement est très long, hein, on panache un par un, et donc on pointe avec des petits bâtons, vous voyez bien ce que c'est, les noms des candidats un par un. En gros, pour reprendre les trois listes, à l'issue du premier tour, deux candidats, l'adjointe sortante ici et un autre de cette liste-là, sont issus dès le premier tour. En gros, cette liste-là, alors c'est difficile de calculer les pourcentages parce que c'est des candidatures individuelles, en gros, cette liste-là bénéficie de 45% des voix et avec le jeu du panachage, seulement deux élus passent, mais beaucoup d'élus de la liste sont pas loin d'être élus dès le premier tour. Ce qui est intéressant, c'est que le taux de panachage des bulletins, c'est-à-dire le taux des bulletins qui ont été rayés, est vu comme très faible, il est inférieur, autour de 9-10%, d'après ce que j'avais noté dans mes notes de terrain. Ce qui a surpris les gens, et ce qui d'ailleurs les a fait dire, les habitants qui participent au dépouillement, que les gens ont privilégié les projets plutôt que les personnes. Et effectivement, un taux de panachage faible, alors qu'on aurait pu imaginer une commune comme ça, une pratique qui est de dire on raye tout. Alors, je dis n'importe quoi, mais ça peut se passer comme ça dans certains cas. On raye les petits nouveaux et puis on garde tous les sortants pour les rabibocher. Ou alors, au contraire, on prend que les nouveaux parce qu'on est jeune et on a envie que ça change. Bref, là, le taux de panachage, il est faible, autour de 9-10%. Donc, c'est un indicateur important. Il est autour de 12, je précise avec mes notes. Donc, c'est la liste Vivien Mathieu qui arrive largement en première position. Sa tête de liste et un autre sortant sont même élus au premier tour, ce qui est un cas rare dans ce système de scrutin où souvent les candidats les plus connus sont les plus exposés. Il n'est pas rare que dans les systèmes où les panachages, que les têtes de liste soient les moins bien élues de la liste parce que sur leur nom se cristallise toute une série de choses. Là, la tête de liste est élue dès le premier tour ainsi qu'un autre candidat, ce qui est un signe fort. Le reste des candidats de leur liste manque l'élection au premier tour à quelques dizaines de voix. Les candidats de la liste, Mathieu pour vous et avec vous, celle qui se situe ici, sont globalement en deuxième position, tandis que ceux-là sont globalement en troisième position, mais pas très loin derrière les autres. Et donc, pour le deuxième tour, et à l'issue de tractations difficiles, on voit que la liste qui a frisé l'élection au premier tour se représente unie, sans même discuter avec les autres pour rester sur son projet. Et la liste, il y a des tentatives de fusion douloureuses qui vont finalement aboutir à une fusion des 10 arrivés derrière, en fait, pour essayer de pouvoir, avec leurs 52-55%, d'essayer de faire basculer. Alors, cette fusion entre tours, elle est difficile, elle se fait au prix du départ, entre guillemets, de tête de liste d'une des l'autre. Alors, leur nouveau projet, c'est urbaniser en cohérence avec le caractère du village, encourager l'animation pour toutes les générations, préserver bien l'environnement et maîtriser le budget. Autrement dit, quand on dit ça, on pourrait dire qu'on dit pas grand chose. Bâtie dans l'urgence, cette nouvelle liste, elle a pas le temps de réaliser des affiches destinées aux habitants, à l'inverse du nouveau venu dont vous avez pu voir les autres. Au soir du second tour, l'ensemble des candidats en liste pour la liste Vivre à Mathieu, la première liste, sont tous élus avec plus de 60% des voix. La liste emportant donc l'intégralité des 19 sièges du conseil municipal, c'est un mode de scrutin qui est très dur, puisque comme on vote pour des personnes, tout candidat qui a plus de 50% des votants au deuxième tour est élu. Donc alors que le rapport de force dans la commune est en gros de 60% pour la première liste à 40% pour les autres, c'est la première liste qui fait 60, emporte 19 sur 19 des sièges, provoquant un bouleversement à Mathieu, selon les dires d'un des candidats. Ce qu'on peut dire, c'est que l'échec de la liste qui est issue de la fusion entre les deux autres listes est donc important, d'autant que cette liste a tenté dans les derniers instants de politiser le scrutin au sens partisan en jouant sur la liste de la figure de la liste de gauche, dont il fallait à tout prix endiguer le succès dans l'intérêt de Mathieu. Une manière de dramatiser le scrutin en utilisant des étiquettes partisanes dans un contexte communal qui est très marqué à droite. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le succès d'une liste qui met l'accent sur la mixité sociale et intergénérationnelle, toute proportion gardée là encore, n'est pas complètement anodin, et c'est ma conclusion, dans une commune qui est marquée par un tel entre-soi des classes moyennes et supérieures, et qui était a priori dotée de tous les traits d'une entité communale clubisée, entre guillemets, où la fermeture de l'espace résidentiel aurait pu être un débouché. Ce qu'on peut penser, et en termes d'analyse, je m'arrêterai là-dessus, c'est outre le fait d'être parvenu à mobiliser son électorat potentiel parmi les deux groupes d'habitants qui étaient supposés lui être favorables, notamment via l'activation de référents symboliques l'associant à la gauche, la composition de la liste, et notamment les professions des colistiers, les thèmes mis en avant, on peut penser que le succès de cette liste a également tenu dans sa capacité à entraîner nombre d'habitants, et notamment de jeunes parents d'enfants en demande de services scolaires et parascolaires, qui étaient sensibles au-delà de leur positionnement politique lors de scrutins nationaux, aux services scolaires, aux activités de loisirs proposées par cette liste dans son projet pour la commune. Et plus largement, on peut dire que ça souligne l'importance des effets d'âge et de génération qui sont induits par les différentes vagues de peuplement dans les communes périurbaines, communes qui sont par définition caractérisées par de fortes recompositions sociodémographiques. Merci.